Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Elisabeth Badinter.
Bonjour.
Il y a 4 ans, vous nous faisiez redécouvrir l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche qui a régné pendant 40 ans sur le plus grand empire d'Europe. Figure fascinante, votre livre s'intitulait Le pouvoir au féminin. En France, Marie-Thérèse est surtout connue comme la mère de Marie-Antoinette, mais pas seulement, elle a mis au monde 16 enfants en l'espace de 19 ans et elle a été une vraie mère, écrivez-vous dans ce nouveau livre qui paraît chez Flammarion, Les conflits d'une mère. Et pas une mère de parade. C'est comment une vraie mère? Et en quoi a-t-elle marqué une rupture avec les habitudes ou les mœurs de l'époque?
Eh bien, c'est inouï de penser que cette femme qui mène 2 guerres de 7 ans pendant ces 19 ans où elle accouche régulièrement d'enfants, a pu trouver le temps, l'énergie et je dirais les entrailles maternelles que n'avait aucune de ses pères, aucune des souveraines, aucune de la haute aristocratie. Et c'est assez, comment dirais-je, surprenant de voir cette femme qui fait la guerre, réforme son pays et qui en même temps va s'occuper aussi, je dirais, aussi fortement de chacun de ses enfants. Alors, certes, il y en a 3 qui sont morts en bas âge, donc elle en a élevé jusqu'à l'âge adulte à peu près 13. Et elle a montré, si vous voulez, des sentiments qui n'existaient pas ou qui ne se manifestaient pas au XVIIIe siècle entre les mères et les enfants. Par exemple, chose tout à fait étonnante, elle est extraordinairement angoissée par la santé de chacun, et on sait qu'il y avait des maladies épouvantables à l'époque, et donc on pouvait même la réveiller la nuit pour, s'il y avait le moindre incident, le moindre inquiétude, et elle arrivait pour rester auprès des enfants. C'est la première souveraine qui a montré un chagrin, mais dévastateur, quand elle perdait les enfants. Au total, elle en perdra 6. Mais c'est même des tout petits qui mouraient au bout de quelques mois ou une année. Toute sa vie, elle les a considérés comme des pertes épouvantables. Elle les a instruits, enfin, elle a donné ses instructions, elle les a éduqués, elle les connaissait chacun jusqu'au plus petit détail de leur personnalité. C'est elle qui donnait les instructions pour rectifier les défauts, etc. Oui. C'est-à-dire que vous imaginez qu'elle travaillait 15 heures par jour, cette femme, au moment où elle a eu tous ses enfants.
Il faut préciser, Elisabeth Badinter, que pleurer ses enfants morts, ça nous paraît évidemment à nous aujourd'hui banal, mais ça ne l'était pas à l'époque de Marie Leczinska, l'épouse de Louis XV, qui elle n'a jamais manifesté d'attachement particulier avec aucun de ses 10 enfants et qui ne va même pas sur leur tombe quand ils meurent en bas âge.
Non, pas du tout, et même qui accepte volontiers qu'on on envoie 4 de ses filles à Fontevraud pour 10 ou 12 ans. Elle les a jamais revues, elle ne s'est jamais déplacée alors qu'elle le faisait pour voir son père. Et il en est de même d'autres souveraines qui préféraient partir à la chasse des semaines entières alors que des enfants étaient en train de mourir. Et donc, il y avait, si vous voulez, une sorte de philosophie. Voilà, ben, il y a une mortalité infantile extraordinaire. On va pas pleurer tous ces petits anges qui sont au paradis.
Avec une réserve quand même, c'est que elle s'en occupe de ses enfants, mais comme d'une souveraine. C'est-à-dire que les enfants sont pris en charge par des gouvernantes pour les filles ou des gouverneurs pour les garçons, des aïas et des aïos.
Oui, mais certes, mais si aujourd'hui une femme toute puissante dans le monde comme la patronne de Google avait 2 enfants, elle aurait aussi des gouvernantes.
Oui.
Pas dit qu'elle se sentirait obligée non seulement de faire écrire, ses enfants devaient lui écrire toutes les semaines. Ouais. En allemand et en français. Elle corrigeait les lettres. Elle avait si vous voulez, toutes les semaines aussi, les comptes rendus des aïas, des aïos. Et c'est elle qui disait, bon, faites ci, faites ça. Y compris quasiment de faire les menus des enfants. Oui. Et donc, elle s'est attachée beaucoup à certains, moins à d'autres. Et quand je dis que c'est une vraie mère et pas forcément une bonne mère, c'est parce que elle a commis comme nombre de mères, beaucoup de, d'erreurs et même des injustices qui ont été fortes. Elle ne s'est pas très bien rendue compte de ce que la préférence marquée pour un ou un autre enfant, pouvait être source de conflits épouvantables ensuite entre les enfants.
Voilà, alors tout cela, évidemment, est raconté dans des lettres très nombreuses auxquelles vous avez eu accès, qui sont dans les archives, et évidemment ça raconte beaucoup de détails et de relations et de sentiments aussi tout à fait passionnants. Alors les résultats, vous les constatez, hein, c'est-à-dire que vous faites la liste des enfants pour regarder comment ils ont été élevés, ce qu'ils sont devenus. Bon, on peut dire que les résultats sont pas au niveau des espérances de Marie-Thérèse, notamment chez ses garçons, Joseph, le futur Joseph II, enfant arrogant, paresseux, trop gâté, rebelle et buté, que les punitions laissent froid.
Oui, et qui la laisse désemparée. Et elle ne sait plus quoi faire. Elle demande conseil à tout le monde, de son entourage. Est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ça aussi, ça a l'air d'une banalité formidable. Mais en réalité, ça ne se faisait pas à l'époque, et surtout dans son milieu, de parler des enfants. On ne parlait pas des enfants aux autres. Et elle est en demande de conseil constamment, parce que justement, avec Joseph en particulier, elle ne sait plus que faire. Ouais. Il se fiche des punitions, etc. Or, c'est quand même l'héritier, le futur empereur. Ouais. Donc, elle montre un souci inouï. Et moi, je dois vous dire que ce que je trouve le plus émouvant, le plus nouveau, c'est cette mère qui, à l'occasion des maladies graves de ses enfants, ne les quitte pas, même quand ils ont la petite vérole, ouais, qui est éminemment contagieuse et qu'elle ne l'a pas eue. Et elle ne les quitte pas, et après, ce sont des chagrins, mais immenses. Elle est ravagée. Et quand un enfant est malade, elle dit « je suis en transe ». Donc c'était un attachement quand même à chacun de ses enfants qui, franchement, n'était pas du tout le fait de l'époque.
Avec Joseph, ça se termine par une rupture, parce que Marie-Thérèse et Joseph sont co-régents, que Joseph fait la guerre, il lance ses troupes en Bavière et Marie-Thérèse négocie secrètement avec son ennemi, le roi de Prusse, Frédéric, pour arrêter les combats et la guerre.
Oui, elle avait déjà fait deux guerres de 7 ans, elle trouvait que ça suffisait comme ça, et elle a préféré effectivement, derrière le dos de Joseph, qui en a souffert dans son orgueil d'une façon telle qu'il ne l'a pas pardonné à sa mère, mais pourtant, ça a l'air contradictoire, mais c'est pourtant la vérité, et pourtant, ça a été un couple, il a adoré sa mère, elle a adoré ce fils, et en même temps, il ne pouvait plus se supporter à la fin.
L'éducation de Marie-Antoinette, qui, on le rappelle, a été promise à l'âge de 12 ans au futur Louis XVI, cette éducation ne semble pas être un grand succès non plus, Elisabeth Badinter.
Ça n'a pas été un grand succès parce qu'il faut dire clairement qu'elle n'a pas pu s'en occuper comme des autres, des aînés. Marie-Antoinette est l'avant-dernière enfant de Marie-Thérèse qui est sur le point de commencer une nouvelle guerre de 7 ans. Et c'est vrai que les rapports entre elle et sa fille ont été assez distants dans la jeunesse de Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette a dit, même adulte, qu'elle avait toujours craint sa mère. Ouais. Et qu'elle en avait peur. Et d'ailleurs, quand Marie-Antoinette était arrivée à Versailles, Marie-Thérèse s'était débrouillée, comme d'ailleurs avec ses autres filles mariées, pour avoir ses espions, ouais, partout, pour savoir si sa fille Marie-Antoinette se comportait comme elle le souhaitait. Ouais. Ce qui n'était pas exactement toujours le cas.
Non,
effectivement, ouais, Marie-Antoinette n'est pas l'enfant le mieux élevé de Marie-Thérèse.
Donc oui, c'est l'ambassadeur qui la renseigne en secret. Elle n'a pas été la mère parfaite, mais vous dites qu'elle a inauguré le modèle d'une maternité active qui triomphera dans les siècles suivants.
Oui, effectivement, on peut dire que cet intérêt pour l'enfant, ces soins de l'enfant, seront le propre de la maternité bourgeoise qui va s'épanouir au XIXe siècle et même, je dirais, jusqu'au début du XXe siècle, avant que l'on découvre l'intérêt énorme de la psychanalyse. Et si au 19e ou au début du 20e, on fait beaucoup moins d'enfants qu'elle, il reste que les mères sont à peu près, je dirais, dans le modèle de Marie-Thérèse. Mmh. Donc c'était une surprise pour moi de voir que cette femme qui n'avait pas eu de modèle, elle, antérieur, de mère, je dirais, présente, a eu ce qu'on appelle les entrailles maternelles et qu'elle a ainsi, si vous voulez, créé une nouvelle étape dans l'histoire des mères. Et comme vous savez, je suis passionnée par l'histoire des mères.
Oui, et ce que Marie-Thérèse d'Autriche a fait avec ses enfants, à votre connaissance, Elisabeth Badinter, ça n'a pas d'équivalent connu au XVIIIe siècle.
Non, et surtout pas dans sa classe, je dirais. Non, ça se faisait pas du tout. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une femme qui non seulement aura compté dans l'exercice du pouvoir, mais qui marque une rupture dans l'histoire des mères. Non, c'est vrai, les femmes étaient, comment dirais-je, habituées à l'idée de la mort des enfants. Et au fond, à l'époque de Marie-Thérèse, chacun continue un peu à penser, comme le disait Montaigne, « J'ai eu 2 ou 3 enfants, disait-il, morts en nourrice, non sans regret, mais sans chagrin. »
Merci beaucoup, Elisabeth Badinter. Les conflits d'une mère, Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants. Votre livre paraît chez Flammarion 4 ans après un premier livre sur Marie-Thérèse d'Autriche, le pouvoir au féminin. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
Europe Midi, Patrick Cohen.